Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
L'État va porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre une élève du lycée Maurice Ravel. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi soir le Premier ministre Gabriel Attal chez nos confrères de TF1. Elle avait accusé à tort le proviseur de ce lycée du 20e arrondissement de Paris de violence, alors qu'il lui avait demandé d'enlever son voile islamique. Les détails dans un instant. La situation extrêmement préoccupante dans le quartier des Moulins à Nice. La CRS 81 a été déployée sur place. Depuis plusieurs jours maintenant, de violents incidents ont eu lieu dans ce quartier très sensible de la ville. Mardi, des bandes rivales se sont affrontées sur fond de trafic de drogue, laissant bien sûr les habitants désemparés. Gabriel Attal veut réformer l'assurance chômage. Le Premier ministre envisage de réduire la durée d'indemnisation. Le chef du gouvernement a demandé à sa ministre du Travail, Catherine Vautrin, de préparer de nouvelles négociations. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis un témoignage bouleversant à la fin de cette édition. Laura Bajman-Kadar est une rescapée du massacre du 7 octobre en Israël. Et elle raconte ce qu'elle a vécu ce jour-là avec son mari et des amis. Elle a attendu pendant plus de 6 heures dans une caravane durant lesquelles elle s'est vue mourir. Elle était sur notre antenne ce mercredi. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. L'État va donc porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre l'élève qui avait accusé à tort le proviseur du lycée Maurice Ravel. Elle avait affirmé avoir été violentée après son refus d'enlever son voile islamique. Le proviseur concerné a donc quitté ses fonctions et il a été reçu par Gabriel Attal et Nicole Belloubet à Matignon. Le Premier ministre s'est exprimé à ce sujet ce mercredi soir, c'était chez nos confrères de TF1, écoutez.
Il a demandé à une jeune femme d'appliquer la loi, c'est-à-dire de retirer son voile dans l'établissement scolaire. Cette jeune femme l'a refusé, et pire encore, elle a cherché à l'intimider en l'accusant de l'avoir molestée ou de violence. J'ai décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse. Ça me permet de rappeler que l'État, l'institution, sera toujours aux côtés de ses agents, de ceux qui sont en première ligne face à ces atteintes à la laïcité, face à ces tentatives d'entrisme islamiste dans nos établissements scolaires. Je rappelle que cet entrisme, que ces coups de boutoir, ont fait récemment 2 victimes dans la famille d'éducation nationale, Dominique Bernard et Samuel Paty.
Dans ce lycée du 20e arrondissement de Paris, une ambiance particulière et assez tendue règne dans les couloirs depuis plusieurs jours maintenant. Les enseignants et les élèves sont partagés quant au départ de leur ancien proviseur, Augustin Donadieu, avec Laurent Sélarié sur place.
Des divergences au sein des élèves. Certains continuent de croire que le proviseur aurait giflé cette jeune fille à l'entrée de l'établissement Maurice Ravel dans le 20e arrondissement de Paris, au moment où cette dernière a refusé d'ôter son voile pour rentrer dans l'établissement scolaire. Des élèves qui se réjouissent presque de la démission de ce proviseur et qui croient également que ce dernier aurait insulté leurs camarades. Alors même que la plainte pour violence de cette étudiante a été classée sans suite par le parquet de Paris. Des divergences également dans la communauté, parmi la communauté éducative. De très nombreux professeurs que l'on a croisés aujourd'hui dans le 20e arrondissement ont tous refusé de nous parler, à l'exception de 2 qui nous ont confié qu'une ambiance assez tendue régnait dans le couloir de l'établissement avec des divergences d'opinion. Certains ne se positionnant ni pour l'un ni pour l'autre. Des professeurs qui nous ont parlé d'atteinte à la laïcité qu'il faut combattre au quotidien, notamment dans le cadre de sorties scolaires où certaines étudiantes tentent de remettre leur voile ou leur abaya alors même qu'elles sont toujours sous l'autorité de leur professeur. Ces élèves nous ont parlé d'un proviseur très attaché au principe de laïcité, très attaché au respect de la loi, un professeur qui ne méritait évidemment pas pour la majorité de ses élèves des menaces de mort dont il a été l'objet.
Je vous propose d'écouter quelques témoignages que nous avons pu recueillir sur place. Et vous allez l'entendre, tous n'ont pas la même version sur ce qui s'est passé et surtout sur le choix du proviseur de quitter l'établissement.
Notre proviseur a appliqué la loi, c'est-à-dire qu'il a demandé à une élève d'enlever son voile. Voilà. Et donc, c'est très bien. Voilà. Donc je suis désolée, effectivement, qu'aujourd'hui, il est obligé d'arrêter ses fonctions.
Les menaces de mort, elles sont pas du tout venues de cette fille ni de sa famille. Et je trouve ça hyper grave d'instrumentaliser les gens comme ça.
Je ne comprends pas ces menaces de mort, qu'il ait ou pas giflé, comme on a entendu dire la fille. Les menaces de mort, il aurait jamais dû en recevoir. Donc pour moi, c'est inadmissible.
On trouve ça bien qu'il ait démissionné parce que c'est pas un bon proviseur. Parce que dans tous les cas, s'il attrape les gens, c'est qu'il doit pas être là. Parce que dans tous les cas, il n'a pas le droit au contact avec les élèves.
Une vingtaine d'établissements scolaires de nouveau menacés d'attentats à Paris ce mercredi. Il s'agit de plusieurs écoles situées dans les 13e, 15e et 19e arrondissements de la capitale. Une procédure de signalement a d'ailleurs été mise en place pour signaler chaque incident justement. Sachez que la police est intervenue pour lever les doutes sur chaque situation. La situation est extrêmement préoccupante dans le quartier des Moulins à Nice. La CRS 81 a été déployée sur place. Depuis plusieurs jours, de violents incidents ont eu lieu dans ce quartier très sensible de la ville. Et mardi, des bandes rivales se sont affrontées sur fond de trafic de drogue. Aminata Demphal, Maxime Leguet.
Cette place des Amaryllis, dans le quartier des Moulins à Nice, est devenue le théâtre d'affrontements sur fond de trafic de stupéfiants. Des scènes d'une violence inouïe.
Sur les affrontements, les personnes résidentes de la cité excédées par la situation liée au trafic de stupéfiants, mais également se sont joints à ce groupe de résidents des dealers d'autres points qui se sont livrés à un lynchage sur de jeunes individus venus pour la majeure partie du Maghreb en situation irrégulière.
Lors de ces affrontements, 4 personnes ont été retrouvées blessées, dont un grave. Un policier a également été légèrement touché à la jambe par un projectile.
Une quarantaine d'individus, tous vêtus de noir, encapuchés, encagoulés ou avec des cache-coups, ont débarqué avec des couteaux, des marteaux.
Des violences qui pourraient être la conséquence des heurts qui ont éclaté lundi soir. La CRS 81 a rejoint les effectifs de police déjà déployés sur place.
Il y a certains résidents du quartier des Moulins qui ont voulu, entre guillemets, chasser ou régler leurs problèmes avec des mineurs isolés, des mineurs non accompagnés. Et là encore, les policiers sont intervenus. Et là encore, bien sûr, les situations se retournent contre nous.
Hier, le préfet des Alpes-Maritimes s'est rendu sur place pour délivrer un message de fermeté. Il promet de poursuivre les interpellations et les saisies de drogue. En un an, plus de 30 kilos ont déjà été interceptés dans le quartier des Moulins.
On en vient à la colère du maire d'Orléans. Serge Grouard dénonce des arrivées de migrants dans sa ville et ce en l'absence de communication des services de l'État. Selon la préfecture du Loiret, environ 50 personnes sont prises en charge toutes les 3 semaines. Voyez ce sujet de Yael Benamou, Mickaël Dos Santos et Fabrice Elsner.
Dans cet hôtel, des migrants en provenance de Paris ont été transférés en bus à Orléans. Depuis mai dernier, cet hôtel s'est transformé en centre d'accueil temporaire. Il est géré par une association mandatée et financée par l'État.
Ils ont dit non, qu'ils ont trouvé des coins pour nous à Orléans, que nous serons logés là-bas et tout. Et c'est comme ça qu'ils ont mis des bus en place et on nous a emmenés ici. Et là, jusqu'à maintenant, ça fait maintenant un an que nous sommes là.
Comme nous le prouve ce texto envoyé à un migrant, certains ont été contraints de quitter la capitale.
Un refus de départ ou une absence de présentation lundi entraînera une fin de prise en charge de l'hôtel. Bonne journée.
La préfecture du Loiret a justifié ces transferts en rappelant que les besoins d'hébergement d'urgence étaient saturés en Île-de-France. Mais selon le maire d'Orléans, l'arrivée de ces migrants sans domicile fixe s'est faite en catimini. Il dénonce la politique du gouvernement.
En tant que citoyen, je dis, il serait temps quand même d'avoir une vraie politique migratoire dans ce pays et d'assumer ses responsabilités. Je demande que les lois de la République s'appliquent et que les personnes qui sont en situation irrégulière soient expulsées du territoire, ce qui est parfaitement logique. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir des lois.
La préfecture du Loiret a démenti tout lien entre l'arrivée de migrants à Orléans en provenance de Paris et la tenue prochaine des Jeux Olympiques.
Allez, on poursuit ce journal avec cette information. Gabriel Attal envisage de réduire la durée d'indemnisation de l'assurance chômage. Le Premier ministre s'est exprimé chez nos confrères de TF1 ce mercredi soir. Le chef du gouvernement a demandé à sa ministre du Travail, Catherine Vautrin, de préparer de nouvelles négociations. Je vous propose donc de l'écouter.
Oui, il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année. Il y a 3 grandes familles de paramètres possibles. Vous avez la durée
d'indemnisation. Une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. Dans le deuxième paramètre, vous avez le temps qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir bénéficier du chômage. Là aussi, on peut imaginer soit de dire qu'il faut travailler plus long, davantage sur les 24 derniers mois, ou alors dire les 6 mois, il s'apprécie sur une durée moins longue, qui n'est plus 24 mois. Et le troisième levier, c'est celui du niveau d'indemnisation du chômage. Combien vous touchez quand vous êtes au chômage et comment est-ce que ça baisse en fonction du temps que vous passez au chômage pour vous inciter à reprendre un emploi. Là aussi, c'est une des pistes qui a moins ma préférence que les deux précédentes.
Les réactions politiques sont nombreuses après cette annonce du Premier ministre, à commencer par Marine Le Pen. La réforme de l'assurance chômage est une escroquerie qui n'a qu'un seul but, faire les poches des Français pour renflouer les comptes de l'État qui sont en déficit à cause de l'impéritie du gouvernement. Le régime est excédentaire, il n'y a aucune nécessité à le réformer. Une autre réaction qu'on va regarder ensemble, celle de Manon Aubry de la France Insoumise. Faire la poche des chômeurs plutôt que des profiteurs, voilà ce qu'a annoncé Gabriel Attal ce mercredi soir avec la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Voilà à quoi mènent les règles budgétaires austéritaires. Le 9 juin, donnons-nous la force de les rejeter. Michel Mussolino, qui est écrivain et spécialiste de l'économie, a livré son analyse ce mercredi soir sur CNews. Et selon lui, cette réforme de l'assurance chômage manque grandement de précision, c'est ce qu'il a affirmé.
Ce qu'on peut regretter, c'est que ça manque un peu de, comment dirais-je, de précision. Il faudrait peut-être être un peu plus chirurgical dans l'approche des réductions des dépenses et savoir, par exemple, que ceux qui profitent peut-être de la manière la plus importante du chômage, ce sont souvent des cadres qui profitent du chômage pour avoir une année sabbatique tout en étant eux sûrs de retrouver un emploi au bout d'un an, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, pour les populations les plus fragiles.
Alors que le déficit public de la France a atteint 5,5% du PIB en 2023, eh bien la Commission des finances du Sénat a annoncé le lancement d'une mission parlementaire sur ce sujet. Pendant ce temps, l'agence de notation Moody's juge improbable que la France tienne son objectif de réduction du déficit à 2,7% d'ici 2027. On en vient à ce témoignage bouleversant. Dans ce journal, Laura Blajman-Kadar est une rescapée du massacre du 7 octobre en Israël. Elle raconte donc ce qu'elle a vécu ce jour-là avec son mari et quelques amis. Elle a attendu pendant plus de 6 heures dans une caravane durant lesquelles elle s'est vue mourir. Les quelques moments de ce témoignage glaçant rassemblés par Clotilde Payet cette nuit. Regardez.
6 longues heures de cauchemar, tapis dans une petite caravane, Laura, son mari et ses 5 amis ont attendu dans l'angoisse la plus totale, alors que le massacre se déroulait derrière leur porte le 7 octobre.
Et on entend les gens hurler, vraiment, les gens hurler, les gens courir partout, essayer de sauver leur vie et les terroristes, avec des hurlements et courir après les gens et tirer de partout.
Les terroristes n'entreront jamais à l'intérieur, Laura se sent miraculée.
Pour une raison ou une autre que je ne comprendrai sûrement jamais, ils ne réussissent pas à ouvrir la porte de la caravane. Même quand ils tirent sur la caravane, ça passe à côté de mon mari, ça passe dans la climatisation.
Mais vers 12h30, les terroristes reviennent vers eux. Et pour Laura et ses proches, ils pensent que c'est la fin.
Et mon mari me regarde les yeux dans les yeux et il me dit « c'est terminé ». Donc il chuchote qu'il m'aime, je lui dis que je l'aime. Et là, c'est un regard qui veut tout dire et qui ne veut rien dire. Parce qu'on veut tout dire. Et on n'a rien à dire à un moment pareil.
Sauvée in extremis par l'armée israélienne, Laura découvre l'ampleur du massacre lorsqu'elle sort de sa cachette.
Quand les garçons ont réussi à ouvrir la porte de la caravane, on a vu le vrai massacre. Des dizaines de jeunes personnes étalées par terre.
Un traumatisme difficile pour Laura et son mari. La vie ne sera plus jamais la même qu'avant le 7 octobre 2023.
On est tous les deux toujours très perturbés de ce qui s'est passé. Et vraiment impossible d'essayer de guérir. Quand à chaque repas, on pense à nos amis qui sont toujours à Gaza.
Malgré cela, Laura croit encore à une paix possible en Israël.
En déplacement au Brésil, ce mercredi, Emmanuel Macron a affirmé que l'accord commercial négocié entre l'Union européenne et le Mercosur était un très mauvais accord. Le chef de l'État a donc appelé à en construire un nouveau qui soit plus responsable d'un point de vue de développement, de climat et de biodiversité. C'est un élan de solidarité organisé par les équipes de la protection civile. 2 fois par semaine, ils vont à la rencontre des sans-domicile fixe dans les rues de Paris pour leur apporter des vivres et un petit peu de réconfort. Nos équipes ont pu suivre deux députés qui ont participé à une maraude le temps d'une seule soirée. Florian Paume avec Maxime Leguet.
Comme tous les mardis et jeudis soirs, Claire sillonne les rues parisiennes avec son équipe de la protection civile pour aller à la rencontre des plus démunis.
On est une écoute, on vient les voir, on passe du moment avec eux, on les considère comme des personnes et pas juste des personnes qui sont par terre dans la rue. Donc c'est vraiment un côté humain qu'on cherche à établir et qu'ils cherchent également.
Munis de matériel de premier secours, de bouteilles d'eau et de thermos de café, ils effectuent une distribution pendant toute la soirée.
Petit café ?
Oui, café.
Ouais, vous avez la tasse ? Oh là 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 là, mais parfait.
Slavek, lui, est un habitué. À chacun de leurs passages, il est pleinement reconnaissant. Et c'est le même mot qui revient inévitablement.
Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup.
Ce soir, la députée du Maine-et-Loire participe à cette maraude. Elle salue le travail des bénévoles.
Il faut qu'on sache reconnaître et valoriser le travail de ceux qui travaillent dans l'ombre et qui aident et qui accompagnent ceux qui en ont plus besoin. Donc évidemment que c'est une expérience qui enrichit l'action parlementaire.
À Paris en 2024, près de 3500 personnes dorment dans la rue. Un chiffre en augmentation de 16% par rapport à l'année dernière.
Et enfin, la semaine de 4 jours pour les parents divorcés, c'était une proposition du Premier ministre Gabriel Attal. Eh bien, cette mesure va être expérimentée dans la fonction publique avant de peut-être se généraliser. Et vous allez voir que l'initiative est plutôt vue d'un bon œil à Bordeaux. Le reportage sur place, signé Jérôme Rampenou.
Une semaine de 4 jours, une semaine sur 2 pour les couples divorcés. C'est une des propositions de Gabriel Attal qui serait testée dans la fonction publique avant de peut-être s'étendre à toutes les entreprises. Une initiative plutôt bien accueillie par les fonctionnaires rencontrés devant la préfecture de Bordeaux.
Surtout quand vous avez deux ados à la maison, ça peut aider. Voilà.
Plutôt une bonne idée alors ?
Pas mal, oui, à étudier.
Pour certains, le risque, c'est de manquer d'effectifs lorsqu'il y a une charge supplémentaire de travail.
Dans les services, vous avez une charge qui varie suivant l'actualité. Donc si c'est un jour où on a besoin de vous et que vous êtes en repos, ça peut être compliqué.
C'est toujours des bonnes propositions, hein, mais alors dans le concret, ça va être compliqué là. Hein, parce qu'il va falloir noter, va falloir gérer les actes de présence, pas se tromper avec les gens qui sont séparés ou pas.
Dans ces bureaux syndicaux de France Travail, près de Bordeaux, c'est une belle avancée, car pour eux, ce sont souvent les femmes qui doivent s'organiser pour la gestion des enfants.
C'est souvent les femmes qui doivent aménager leur organisation, donc se mettre en temps partiel. Donc c'est important, surtout dans des entreprises ultra féminisées. Si vous mettez en télétravail quelqu'un le vendredi, bah le passage de relais pour les enfants, il se fait plus calmement, plus sereinement, le passage des informations pour l'école. Et ça, c'est un vrai bénéfice. J'ai une de mes salariées dans ce cas-là. Effectivement, elle est beaucoup moins stressée avec cette organisation-là.
Mais attention, une semaine sur deux, cela ne veut pas dire que vous allez travailler moins. Il va juste falloir se réorganiser.
Allez-vous rester bien avec nous sur CNews, votre journal des sports, dans un instant. Et on ouvre ce journal des sports avec du football féminin et la qualification de l'Olympique Lyonnais pour les demi-finales de la Champions League. Déjà victorieuse 2-1 au match aller à Lisbonne, les Lyonnaises se sont imposées 4-1 à domicile face au Benfica. Grâce à deux doublés de Delphine Cascarino et Kadidiatou Diani. Un succès qui permet donc aux féminines de l'Olympique Lyonnais de se qualifier pour le dernier carré de la compétition pour la 13e fois depuis 2008. En demi-finale, l'Olympique Lyonnais affrontera le vainqueur du match entre le PSG et les Suédoises d'Aken. Pour la toute première fois de son histoire, la Géorgie participera à une compétition internationale de football. Puisque ce mardi soir, les Géorgiens ont obtenu leur ticket pour l'Euro 2024 en s'imposant face à la Grèce au tir au but. Derrière cet exploit se cache un homme français, l'ex-international Willy Sagnol. Le sujet, signé Clara Mariani.
À Tbilissi, il n'est guère que l'horizon à ne pas trembler d'émotion. La Géorgie est pour la première fois de son histoire à l'Euro après 8 tentatives depuis son indépendance en 1991.
I will pay to feel what I feel today. So I'm happy all our efforts, all our hard work we put in the last 3 years, we got it back today and that's an amazing feeling.
Willy Sagnol, 47 ans, sélectionneur au paradis. Arrivé en bâtisseur dans le Caucase le 15 février 2021, récolte là les fruits de sa patience.
If you want to reach something, it takes time. In football, you can't change everything in 1 month or in 6 months. It takes time, always.
Du temps et des convictions après 33 matchs à la tête de la sélection frappée de la Croix de Saint-Georges. Et deux victoires surtout en 2024 sur la route de l'Euro. L'échec dans la course mondiale 2022 au Qatar est oublié.
I never thought about going, even if you would have asked me before the match. I'm feeling good here since 3 years. I'm surrounded by amazing people and I think that's the most important.
Premier Français à la tête d'une sélection étrangère qualifiée pour le tournoi, l'ancien latéral droit poursuivra donc son ouvrage en Allemagne face à la Turquie, la République tchèque, puis le Portugal. Il faudra encore être généreux.
When you're a coach, you have to give. You have to give and give and give. And one day, you hope maybe once you will get something back.
Dans la capitale, le Stéphanois aura peut-être un jour sa statue. En attendant, il vient de placer la 77e nation FIFA sur la carte du football continental. Lui, le Frenchie de Géorgie, porté par quelques 3 700 000 habitants, tous désormais supporters des croisés.
Allez, on termine ce journal des sports avec un mot de tennis. Caroline Garcia s'est inclinée en quart de finale du Masters 1000 de Miami. Face à Danielle Collins, l'américaine, en 2 petits sets, la défaite de Garcia 6-3, 6-2. Après une victoire convaincante face à Coco Gauff au tour précédent, la Française n'a pas été en mesure de mettre en difficulté son adversaire du soir. Diminuée par une blessure à l'épaule droite, douloureuse, la Lyonnaise a été étouffée par l'américaine qui s'est imposée en 1h et 20 minutes de jeu. Caroline Garcia n'a d'ailleurs jamais réussi à battre Collins en 4 matchs. Ouais. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. L'État va donc porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre une élève du lycée Maurice Ravel. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi soir le Premier ministre Gabriel Attal chez nos confrères de TF1. Elle avait accusé à tort le proviseur de ce lycée du 20e arrondissement de Paris de violence alors qu'il lui avait demandé d'enlever son voile islamique. On revient donc sur cette information dans un instant. Bonne nuit à toutes et à tous. Je vous retrouve donc dans un instant pour un prochain journal.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.